Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 27 septembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. La menace nucléaire de Netanyahou contre l'Iran dans son discours à l'ONU sans la frustration. Voilà pour le thème de notre commentaire. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la force aérospatiale du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a réussi à mettre en orbite le satellite Nour 3. L'Iran appelle la communauté internationale à condamner la récente menace nucléaire lancée par le premier ministre israélien. Et puis l'ONU s'oppose à l'interdiction du voile pour les athlètes françaises aux Jeux Olympiques 2024. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La division aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé avec succès le satellite d'imagerie locale Nour 3. Le satellite a été lancé à bord d'un transporteur baptisé Kassed ou Messager et placé en orbite à 450 km au-dessus de la surface de la Terre. Le commandant aérospatial du CGRI, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a déclaré que l'Iran lancerait deux autres satellites dans l'espace dans les mois à venir. Malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux ces dernières années, l'Iran a réussi à franchir un pas de géant dans son programme spatial civil. Il fait partie des 10 premiers pays au monde capables de développer et de lancer des satellites. Téhéran appelle la communauté internationale à réagir et condamner la récente menace nucléaire lancée par le premier ministre israélien contre la République islamique. La mission permanente de l'Iran auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève a lancé cet appel à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'ambassadeur iranien aux Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a fait parvenir une plainte à ce sujet dans un courrier adressé au secrétaire général de l'ONU et au président de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, exprimant sa forte condamnation des propos tenus vendredi par Netanyahou. Il est indiqué dans le courrier que l'Iran était victime d'armes de destruction massive et qu'il coopérerait efficacement avec d'autres pays pour contribuer à créer un monde sans armes nucléaires. Alors que Benjamin Netanyahou, lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, menace l'Iran, qui est membre et signataire du traité de non-prolifération d'armes nucléaires, le régime sioniste n'a jamais signé le TNP et n'a jamais permis aux inspecteurs onusiens de visiter ses sites nucléaires et ne s'est jamais soumis à la surveillance internationale dans le domaine des armes prohibées. Soit alors que l'Iran coopère pleinement avec l'agence dans ce domaine, selon un rapport de janvier 2023 de l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, Israël disposerait d'un stock d'environ 90 ogives nucléaires. Selon d'autres estimations, le nombre d'ogives nucléaires israéliennes se situerait entre 200 et 300. Réagissant toujours à la politique iranophobe et agressive d'Israël, la représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies a également dénoncé la menace nucléaire d'Israël contre son pays. Zahra Ershadi a appelé la communauté internationale à forcer le régime à abandonner les armes nucléaires, à adhérer au TNP et à accepter le système de garantie de l'AIOA. Madame Ershadi s'exprimait lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'élimination des armes nucléaires. La diplomate a déclaré qu'Israël, avec le soutien des États-Unis, menace l'Iran avec des armes nucléaires et s'oppose à la création d'une zone exempte d'armes prohibées en Asie occidentale. Madame Ershadi a fustigé la menace irresponsable de Tel Aviv qui allait à l'encontre des normes et règles internationales. La diplomate iranienne à l'ONU a également mis en garde contre la menace croissante d'une course aux armements. Elle a déclaré qu'une telle menace rapproche la région d'un scénario apocalyptique. L'Iran fait l'expérience de la guerre hybride des médias occidentaux depuis la victoire de la révolution islamique en 1979. Un documentaire intitulé « Décolonisation de l'esprit » diffusé sur Presse TV a mis en lumière la propagande anti-iranienne des principaux médias occidentaux. David Miller est le producteur de ce documentaire. Il est un ancien professeur à l'université de Bristol. Il a déclaré de faire un voyage en Iran pour voir personnellement ce qui se passe sur le terrain dans le pays. Il s'est entretenu avec des gens ordinaires et des intellectuels sur diverses questions, notamment le rôle de l'Occident et du Royaume-Uni dans l'histoire iranienne. Les Nations Unies ont critiqué le projet de la France d'interdire aux athlètes olympiques de porter le hijab islamique lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. La porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Marta Hurtado, a déclaré que l'organisation internationale était fermement opposée à de telles pratiques discriminatoires. Elle a également averti contre les conséquences néfastes de telles décisions. Le ministre français des Sports a annoncé que les athlètes français n'auraient pas le droit de porter le foulard pendant les Jeux olympiques. La France a déjà interdit le port de symboles religieux jugés ostentatoires dans certains contextes, comme dans les écoles publiques et par les fonctionnaires. En juin dernier, le Conseil d'État français a confirmé l'interdiction faite aux footballeuses de porter le hijab. Une délégation saoudienne a effectué une visite rare en Cisjordanie occupée où elle a rencontré de hauts responsables palestiniens. L'équipe est dirigée par l'ambassadeur saoudien non résident dans les territoires palestiniens, Naïef al-Soudairi. Il s'agit de la première délégation saoudienne se rendant en Cisjordanie depuis 3 décennies. Soudairi a présenté ses lettres de créance au président palestinien Mahmoud Abbas et au ministre des Affaires étrangères Riyad al-Maliki à Ramallah. La délégation saoudienne a souligné l'importance de la question palestinienne pour le royaume. Parallèlement, le ministre israélien du tourisme s'est rendu en Arabie saoudite pour une conférence de l'ONU. Il s'agit du premier voyage public dans le pays d'un membre du cabinet israélien. Cette visite intervient au milieu de spéculations sur la possibilité d'une normalisation des relations entre Tel Aviv et Riyad. Selon les commentateurs, il y a un long chemin à parcourir pour parvenir à un accord global entre Riyad et Tel Aviv, alors que Netanyahou et Biden ont un besoin urgent de cet accord dans leur situation critique. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman n'est point pressé pour diverses raisons. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. La menace nucléaire de Netanyahou contre l'Iran dans son discours à l'ONU sent la frustration. L'Assemblée générale des Nations unies de cette année à New York a prouvé une fois de plus que le monde est en train de passer d'un ordre unipolaire à un ordre multipolaire dans un contexte de montée en puissance du Sud. Le discours du président iranien Ebrahim Raisi a été le point culminant du sommet qui a révélé au grand jour l'hypocrisie des pays occidentaux en matière de droits de l'homme et annoncé la fin de l'hégémonie occidentale. Le premier ministre du régime israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé à la tribune de l'Assemblée générale dans une salle presque vide, alors que la plupart des dirigeants mondiaux ont sauté son discours alors qu'il répétait de nouveau ses menaces creuses contre l'Iran. Son discours incluait une menace nucléaire directe contre la République islamique d'Iran, même si ses conseillers ont ensuite fait marche arrière et ont déclaré qu'il avait été mal lu par le premier ministre mégalomane du régime israélien. Avant tout, l'Iran doit faire face à une menace nucléaire crédible. Tant que je serai Premier ministre d'Israël, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires, a-t-il proféré lors de son discours dans un silence assourdissant. Cette menace en violation directe de la Charte des Nations Unies a relancé le débat sur le programme nucléaire clandestin de l'entité sioniste qu'elle avait caché au monde pendant des décennies. Les régimes successifs de Tel Aviv ont toujours démenti la possession d'armes nucléaires, mais la déclaration de Netanyahou a mis fin à toutes les spéculations et confirmé ce qui était déjà connu. Ce qui est significatif dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, outre la grave menace nucléaire, c'est le discours qui, typique des mouvements xénophobes, suggère l'existence d'un autre qui jouit excessivement et cet excès est perçu comme un vol de son propre plaisir. En d'autres termes, le discours a avancé l'argument selon lequel un groupe ou une communauté particulière ne peut pas accéder à ses droits légitimes parce qu'une autre communauté l'en empêche. Un exemple classique de cette perception du vol de plaisir serait la notion exprimée par divers groupes xénophobes qui affirment que tout leur travail acharné pour construire une communauté où ils peuvent être heureux est entravé par la présence d'étrangers qui bénéficient des efforts des résidents d'origine. Par conséquent, la communauté ne peut pas profiter pleinement de ses avantages en raison de la croyance que les étrangers ont usurpé la source de jouissance des autochtones. Dans ce cas, le discours de Netanyahou, la jouissance politique sioniste qui est la capacité de trouver satisfaction à travers la construction d'une communauté politique stable, est perturbé par la présence de divers signifiants qui s'articulent dans une chaîne d'équivalence. Ces signifiants deviennent les symboles d'une totalité qui s'oppose à la possibilité de maintenir la stabilité politique du projet sioniste. Ces multiples signifiants peuvent être considérés comme des revendications politiques. Chacune de ces revendications est d'une part spécifique et concrète, mais d'autre part, par la création de liens équivalents, elle se connecte à l'ensemble des autres revendications. Pour mieux illustrer ce point, prenons la demande politique spécifique de la Syrie concernant les agressions répétées et les frappes aériennes menées par l'aviation sioniste au-dessus de Damas. D'une part, cette revendication vise à mettre un terme aux frappes aériennes, mais en même temps, cette demande même devient la partie visible d'un ensemble plus large de revendications politiques contre le sionisme. Il fonctionne comme la pointe d'un iceberg représentant la totalité d'autres revendications politiques comme la lutte palestinienne ou la relation entre l'Inde et l'entité sioniste, entre autres. Simultanément, les revendications politiques qui s'opposent au sionisme génèrent un antagonisme qui est le point de départ de la sphère politique. Dans ce contexte, l'antagonisme peut être exprimé en termes islamiques comme la confrontation entre les opprimés et les oppresseurs. En d'autres termes, l'articulation de diverses revendications et la création de cet antagonisme vise à construire une hégémonie qui cherche, d'une part, le démantèlement de l'hégémonie existante et, d'autre part, l'instauration d'un nouvel ordre social pour remplacer l'hégémonie existante. Une fois de plus, en analysant le discours de Netanyahou à l'Assemblée générale de l'ONU et sa menace envers la République islamique, il devient évident que pour le sionisme, sa jouissance politique, comprise comme stabilité, est entravée par la présence de la République islamique et d'autres membres du soi-disant axe de la résistance. Il existe une perception d'un vol de jouissance politique de la part d'autrui dont les revendications prennent un caractère totalement antagoniste. L'opposition au sionisme dans sa quête de construction d'une hégémonie opposée suggère que la stabilité du sionisme en tant que projet politique est contingente. Malgré les efforts visant à contrôler et à apprivoiser ces revendications, il devient évident qu'elles ne peuvent être satisfaites qu'à travers la destruction de la prétendue stabilité du sionisme. Dans le même temps, il est important de comprendre que les menaces de Netanyahou ne sont pas uniquement dirigées contre l'Iran, mais visent tous les signifiants spécifiques qui s'opposent individuellement à la fois au sionisme et au racisme qu'ils représentent. Dans ce contexte, l'Iran, à travers la chaîne d'équivalence, symbolise tous ces mouvements et revendications particuliers. De la même manière, on pourrait dire que la Palestine représente les exigences de la Syrie, l'Iran représente les exigences de la Palestine et le Hezbollah représente les exigences du Hamas ou du djihad islamique de la Palestine. C'est pourquoi Netanyahou a lancé sa menace nucléaire contre la construction d'un bloc contre le sionisme. Il l'a fait parce qu'il était conscient que son discours et ses atouts politiques étaient épuisés.
Bonjour à tous, vous êtes avec nous dans cette émission du débat. Le sujet du jour étant la reprise des propos du président Ebrahim Raisi lors de l'Assemblée générale de l'ONU concernant l'arrêt donc du fait de brûler les Corans, les textes saints. C'est notre sujet du débat. Il a proposé de faire un mouvement international que Press TV donc suit, un mouvement général pour empêcher à ce que de nouveau des Corans soient brûlés ou utilisés à des fins politiques. Tout de suite donc, je vous propose un reportage qui vous résumera la situation, les propos tenus par le président iranien Ebrahim Raisi et par donc ce mouvement proposé notamment par la chaîne iranienne Press TV.
À la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président iranien Ebrahim Raisi a condamné la profanation du Saint-Coran au début de cette année en Suède et au Danemark. Le noble Coran a interdit l'affront aux idées et aux croyances, a-t-il rappelé, demandant qu'est-ce qui définit l'humanité et élève les valeurs humaines mieux que la parole du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la première fois qu'ils brûlent les paroles de Dieu et supposent qu'ils ont étouffé pour toujours la voix du ciel. Mais les enseignements coraniques destinés aux communautés humaines ne brûleront jamais et les flammes de l'insulte ne brûleront jamais. La distorsion ne sera pas à la hauteur de la vérité. L'islamophobie, quelle qu'en soit la forme, qu'il s'agisse de brûler le Saint-Coran ou d'interdire le code vestimentaire islamique dans les écoles, équivaut à un discours de haine. Derrière ces actes d'incitation à la haine se cache une intention plus vaste. Elle est reléguée au rang de la liberté d'expression et trompeur, a averti le président Raisi. Le président iranien a déclaré que le monde musulman n'oublierait jamais le récent acte de sacrilège contre le Saint-Coran dans un pays occidental. Raisi a également déclaré que les jeunes devraient réaliser comment ceux qui prétendent défendre la liberté d'expression ont commis avec arrogance un acte blasphématoire contre les saintetés musulmanes. Ils mentent et ne soutiennent pas la liberté d'expression et d'opinion. Ils s'opposent à la liberté et cherchent à imposer leur despotisme sous la forme de la liberté d'expression à l'humanité. Le Coran est une manifestation de la liberté qui enseigne l'humanité, mais ceux qui insultent les saintetés sont contre la liberté d'expression.
Tout de suite, donc, la venue de nos deux invités. Tout d'abord, nous commençons par M. Amrouni, un de nos experts politiques. Bonjour, M. Amrouni, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour à vous, à toute votre équipe, à votre invité, ami, à toute
Merci, Monsieur Amrouni. Deuxième élément étant Monsieur Ahmad Rami, notamment un de nos experts, concernant notamment l'islam, étant ancien président de Radio Islam en Suède. Bonjour, Monsieur Rami. Ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour et bonjour à Monsieur Amrouni et à vos auditeurs aussi.
Alors, tout de suite, Monsieur Amrouni, nous allons directement dans le vif du sujet. Alors, le président Ebrahim Raisi, président iranien, le 13e gouvernement après la révolution, a invité à faire un mouvement et de demander l'arrêt de l'utilisation du Coran comme un acte politique où se mêle la liberté d'expression. Il demande à l'arrêt de se donner l'autorisation de brûler un livre saint pour au moins 24% de la population, puisqu'en 2015, on dénombrait 1,8 milliard de musulmans dans le monde, notamment extrêmement présents en Russie, au Maghreb, en Afrique, en Asie, que ce soit l'Inde ou même le Singapour. En Europe, l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni dénombre un important nombre de musulmans. Donc on ne parle pas d'une petite communauté, d'un seul pays ou la volonté d'un seul pays, mais de plusieurs pays et leur population. Monsieur Amrouni, qu'en pensez-vous des propos tenus par le président Raisi lors de son allocution ?
Oui, le président Raisi, il a fait un très beau discours, un discours raisonné, raisonnable, mais ferme, comme on l'a dit. Et en évoquant la profanation du Saint-Coran et l'islamophobie en général dans le monde, véhiculée par l'Occident et surtout par le lobby sionisme international, fait que le fait que le président Raisi, en ce moment-là, il choisit de parler du Saint-Coran en disant « c'est le Coran qui appartient à tous les croyants, c'est un livre saint, c'est un livre qui incite sur la liberté de la croyance, sur la dignité humaine. Et donc le fait de brûler ce Coran, c'est un acte de discrimination, c'est un acte criminel et c'est un acte inhumain. Donc le président Raisi montre la voie de l'islam, la voie du Saint-Coran, mais aussi défend les principes fondateurs donc, de la communauté de la nation islamique dans le monde. Et que la nation musulmane aujourd'hui, elle est puissante, elle est forte et elle a les moyens de stopper et de lutter contre l'exil et contre l'islamophobie dans le monde.
Merci, Monsieur Amrouni. Monsieur Rami, en effet, comme vient de le souligner Monsieur Amrouni, Monsieur Raisi a souligné et a indiqué le mot « humanité ». Donc le fait que le Saint-Coran représentait était une part de l'humanité, proposait la paix de l'humanité également. Donc il a mis en contre-indication donc, la liberté d'expression, vous-même ayant été ancien président d'une chaîne radiophonique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement on doit délimiter la liberté d'expression ? La liberté d'expression doit englober le respect culturel, le respect religieux des différentes communautés internationales.
Oui, le discours du président Raisi, président d'Iran, a résumé l'attitude de toute la nation islamique et de tous les musulmans. Mais comme j'habite moi-même en Suède, il faut quand même ne pas tomber dans la propagande sioniste qui veut allumer, qui veut, disons, créer une guerre entre l'islam et le christianisme. Il faut savoir que ceux qui ont brûlé le Coran en Suède ne sont pas des Suédois. Il n'y aura jamais un Suédois qui va brûler le Coran en Suède. Ceux qui ont brûlé le Coran et que le font jusqu'à présent, ce sont deux agents du Mossad qui habitaient en Irak et qui se camouflent comme chrétiens, mais en fait, ce sont des sionistes, c'est-à-dire des agents d'Israël, et non pas des Suédois. Le Coran, c'est en réalité le drapeau de toute la nation islamique. Le drapeau, c'est un... Le drapeau, c'est un, disons, c'est un symbole d'une nation, de la nation islamique. Et le Coran, donc, c'est un symbole. Et s'attaquer à un symbole, c'est comme s'attaquer, disons, comme le, s'attaquer à un drapeau d'un pays, d'une nation, le drapeau. Même si le drapeau n'est que, en réalité, comme le papier du Coran, comme un tissu, mais en lui-même, c'est un symbole de toute une nation. Donc, c'est s'attaquer à la nation. Et c'est ces gens-là qui se sont enfuis de l'Irak, deux Irakiens qui se camouflent, deux agents de Mossad qui se camouflent en chrétiens et qui viennent de l'Irak. Ces deux personnes-là, ce sont des terroristes qui ont essayé d'ailleurs de foutre la pagaille et le désordre en Irak. Et quand ils n'ont pas réussi, le Mossad les a envoyés en Suède. Donc, ils veulent créer maintenant, tromper les gens et dire que les Suédois brûlent le Coran. Mais en fait, ce n'est pas les Suédois qui brûlent le Coran, ce sont des agents du Mossad.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Amrouni. Oui. Monsieur Amrouni, quand on regarde les propos tenus donc par le président Ebrahim Raisi, on voit quand même un discours beaucoup plus international qui va au-delà donc, de l'acte provoqué à plusieurs reprises en Suède. On a l'impression qu'il veut que ce soit donc une règle étatique, une règle étatique à tous les pays, puisqu'il s'est adressé à l'ONU, il s'est adressé à tous les pays, à tous les représentants de leur pays, musulmans ou non musulmans, comme quoi la liberté d'expression, et en mélangeant donc le fait d'arrêter d'utiliser le Coran comme symbole politique et en y mélangeant la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que c'est une invitation aux pays internationaux d'en faire une règle étatique du respect des textes religieux, quelle que soit la religion ?
Bien sûr, le président Raisi, c'est une personnalité politique, il représente le peuple iranien, mais aussi le symbolisme d'un savant musulman. Il ne faut pas oublier que M. Raisi, c'est un grand savant musulman. Donc, il parle en tant que président, sa fonction politique, mais aussi en tant que savant musulman. Et le symbolisme, il est très fort, le mouvement, il est très fort, l'endroit, il est très fort. Donc, il demande aux responsables du monde, en fait, de respecter donc le Saint-Coran, de respecter le symbole de la nation musulmane, mais au-delà, c'est-à-dire d'avoir des actes réels en légiférant donc, des lois qui interdisent ce sorte de manipulation, ce sorte d'action. Je comprends M. Rami lorsqu'il dit ce ne sont pas des Suédois, mais malheureusement, brûler le Coran, on a commencé à le brûler aux États-Unis, d'abord il y a quelques années, au Danemark, au Suède, par des Européens, par des Américains, et par fous, donc Irakiens, manipulés par les agents secrets de Mossad, de la CIA, etc. Parce que malheureusement, l'islamophobie, c'est quoi ? L'islamophobie, c'est un outil important de déstabilisation de toute société. Aujourd'hui, en France, il y a 10 millions de musulmans qui vivent très bien en France, malgré tous les problèmes, hein, malgré tout le problème, il n'y a pas de problème, mais il y a une minorité des sionistes véhiculés par des lobbies sionistes, par des agents de renseignement américains qui manipulent donc l'opinion publique française ou allemande ou britannique ou ailleurs, car la population européenne, elle n'est pas raciste. C'est ça qu'il faut noter. Elle n'est pas xénophobe. La preuve, elle a accepté d'accueillir au-delà donc, de leur culture, de leur appartenance, presque 30 à 40 millions donc, de musulmans en Europe. Donc, c'est un acte d'hospitalité. Et dernièrement, le pape, donc à Marseille, il y a quelques jours, il a fait une déclaration très intéressante, très importante, dans l'importance d'accueillir les émigrés et de respecter la différence culturelle. Donc, l'Europe n'est pas raciste, l'Europe n'est pas islamophobe. Il y a une minorité qui manipule l'opinion publique pour des intérêts politiques.
Merci, M. Amrouni. M. Rami, alors on sait que la mondialisation ne vient pas donc ne vient pas de seulement donc l'Asie ou l'Afrique. La mondialisation est d'abord venue du monde occidental. C'est un état de fait. Et maintenant, cette mondialisation est en train de changer. C'est-à-dire le domaine des pouvoirs est en train de changer du fait de la crise économique, du fait que les pays émergents veulent devenir des entités avec une souveraineté importante qui se fait autant écouter que le monde occidental. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de la part du président Ebrahim Raisi d'indiquer que plus de cette expression contre le Coran ne pourrait que faire un séparatisme entre les mondes?
Non, mais il faut savoir que dans le monde, ça prend aux États-Unis, en Suède, en France, partout, il y a le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sioniste, le pouvoir juif sioniste. Ce sont eux qui dominent et qui décident ce qui va se passer dans ces pays. Et moi, j'ai été condamné à 6 mois de prison, pas parce que j'ai brûlé un livre sacré ou que j'ai brûlé un drapeau, mais parce que j'ai critiqué Israël. Donc, il y a des limites dans ces pays, des limites par la loi. On peut tout critiquer, tout brûler, sauf tout ce qui touche à Israël. Voyez. Donc, c'est ça, il faut voir que le mot mondial, le pouvoir mondial, quand on a peur de dire le pouvoir sioniste. Ça ne fait pas de pouvoir mondial. Il y a le pouvoir sioniste israélien. Les États-Unis, aujourd'hui, sont occupés par Israël. La France est occupée par Israël. La Suède est occupée politiquement, j'ai dit, par Israël. Donc, c'est une occupation, bien sûr, mondiale. Israël est une occupation mondiale, occupe les plus grandes puissances. Les États-Unis, par exemple, c'est l'AIPAC qui domine, c'est l'AIPAC qui gouverne. En France, c'est le lobby sioniste, le dîner du CRIF, vous le savez, vous le connaissez. Donc, tout là, il y a des... Ce que le président demande, c'est déjà fait en Occident, c'est-à-dire il y a, bien sûr, les peuples ne sont pas racistes, ne sont pas contre l'islam, mais il y a là le plus grand problème, c'est le problème palestinien. Et le sionisme occupe la Palestine, et donc parce qu'ils occupent la Palestine militairement, parce qu'ils occupent les États-Unis politiquement, ils occupent la France, ils occupent la Suède, ils occupent l'Angleterre. Donc il faut dire les choses, il faut dire les vrais mots. Il faut pas se cacher derrière les mots. Il y a le pouvoir sioniste mondial et non pas du mondialisme. Voilà.
Merci, Monsieur Amrouni. Que pensez-vous donc des propos que j'ai tenus concernant donc cette volonté parce qu'Ebrahim Raisi, dans son discours, est reparti vers le fait qu'il ne devait pas y avoir un bloc Ouest-Est. Et dans ce discours, il y avait également donc la partie de la communauté musulmane dans le monde, du fait qu'en s'en prenant donc au courant, forcément, il y a un séparatisme qui se fait, puisque des pays musulmans, on en compte beaucoup. Encore une fois, je répète, 24% de la population à l'époque, en 2015, était musulmane. On sait que ce chiffre a grossi, puisque la démographie est très importante du côté des communautés musulmanes. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière du président Raisi d'avertir le monde de cette forme de séparatisme qui pourrait exister ?
Bien sûr, il existe réellement. Il faut rappeler que le monde musulman était sous occupation directe. Grandes puissances françaises, britanniques, espagnoles, italiennes, allemandes, et après américaines, les guerres des États-Unis, les dernières guerres des États-Unis contre les musulmans. Les millions de musulmans qui sont morts, qui les a tués? Pourquoi on les tue? Pourquoi on occupe l'Irak, l'Afghanistan? Pourquoi on fait la guerre dans le Pakistan, en Libye, en Algérie, il y a quelques années, et ailleurs? Donc c'est une... c'est une honte pour l'Occident de continuer à traiter les musulmans de sous-hommes. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, qu'il y a une culture dominante, une culture de l'homme blanc qui domine le monde, une culture matérialiste qui domine le monde au nom du progrès. Et donc, en face, il y a le Saint-Coran. C'est pour cette raison, l'acte de brûler le Coran, c'est un acte symbolique du démasquement du mouvement maçonnique, parce qu'on n'a pas parlé, on parle de sionisme, mais pour moi, le réel pouvoir, il est dans le mouvement des maçons. la forme et l'acte de brûler le Coran, c'est un acte de symbole. Ils envoient un symbole car le Saint-Coran représente l'antithèse, l'antithèse de l'Occident matérialiste. Et donc, le président Raisi, lorsqu'il prend le Saint-Coran et il le montre, c'est-à-dire d'abord, il montre qu'il est fier d'appartenir à la nation coranique et que le Saint-Coran représente l'avenir. C'est pour cette raison qu'il a fini son discours par dire « Nous sommes l'avenir du monde ». Ça, c'est très important lorsqu'il parle aussi du sauveur du monde, l'imam al-Mahdi, alayhi salam. C'est très fort le discours du président Raisi. Nous sommes l'avenir du monde. L'avenir du monde se résume dans le Saint-Coran et l'avenir du Messie, l'imam al-Mahdi, alayhi salam.
Excusez-moi de vous interrompre, on rappelle aux éditeurs que l'avenir du Messie et du Mahdi est annoncé dans les trois religions monothéistes, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans ou même les juifs. Excusez-moi, je vous en prie.
Bien sûr, c'est le symbole, c'est-à-dire le Saint-Coran appartient à tout le monde. Le Saint-Coran, il fait partie du patrimoine humain. Il fait partie du code génétique humain. Donc le Coran, on le brûle. Comment ? On le brûle lorsqu'on le met en dehors de la vie quotidienne de l'humanité. On veut que le Coran soit un livre muet. Le président Raisi, il dit non, le Coran, c'est un livre vivant. Et donc, nous avons la possibilité de le mettre en action, c'est-à-dire le gouvernement islamique en Iran, la République islamique, la révolution islamique, tous ces actes sont venus de l'apprentissage du Coran, en fait. Et donc, le symbolisme, il est très fort dans son discours. Il a évoqué beaucoup de choses. Et donc, l'islam d'aujourd'hui, l'islam moderne, c'est un islam qui appartient au Saint-Coran, il appartient à la nation humaine. Ce n'est pas simplement aux musulmans. Donc, séparer les musulmans du progrès, séparer les musulmans de leur Coran, séparer les musulmans de la modernité, donc ça, c'est une déformation des sionistes et surtout des mouvements maçonniques dans le monde. Donc, aujourd'hui, les musulmans résistent. Le symbole de la résistance, c'est le Saint-Coran et les grands combattants sur la ligne du Saint-Coran, comme le général Qasem Soleimani.
Merci. Monsieur Imbruni, on rappelle que d'ailleurs, Presse TV a lancé donc un mouvement, un hashtag, pour pouvoir empêcher de nouveau à ce que le Saint-Coran soit brûlé au niveau international, parce que bien sûr, les propos de Monsieur Raisi ne touchaient pas seulement la Suède. Monsieur Rami, qu'est-ce que vous en pensez des propos tenus par Monsieur Imbruni? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les musulmans doivent s'unir, mais que le monde qui n'est pas musulman doit accepter aussi cette communauté qui existe depuis très longtemps maintenant?
Le monde est aujourd'hui dirigé par la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup peur de la force de la République islamique d'Iran. On n'a pas, surtout Israël a peur que la République islamique d'Iran devienne une puissance mondiale. Donc c'est l'essentiel. Et s'attaquer au Coran, c'est seulement pour camoufler le vrai visée. Le visée. Il faut savoir, quand je suis venu en Suède, j'ai ouvert la radio islam, la station radio islam, et j'étais soutenu par l'église suédoise, par l'archevêque de Suède, l'évêque de Stockholm. J'étais interviewé la sœur Marianne, sister Marianne, et j'étais soutenu par toute la classe politique en Suède. Vous voyez ? Donc, il y avait seulement contre moi le pouvoir sioniste et j'étais condamné pour avoir critiqué Israël. Voyez? Donc, il ne faut pas maintenant tomber dans le piège de la propagande sioniste et de vouloir transformer tout cela en seulement une question de symbole. Il s'attaque à des vrais point, c'est surtout s'attaquer à la République islamique d'Iran. Et c'est pour ça que le président iranien a fait un discours pour répondre idéologiquement et il a exprimé la position de la République islamique d'Iran. Mais moi, je ne suis pas président. Si j'étais président, je me serais exprimé d'une autre façon. Vous essayez de vous exprimer diplomatiquement. Vous n'êtes ni président ni premier ministre. Moi, je suis un journaliste et je m'exprime en tant que journaliste. Il faut aussi diviser les rôles, vous voyez. Moi, je m'exprime comme un musulman, comme un intellectuel, comme un journaliste, et non pas comme un président ou un diplomate.
En tout cas, je vous remercie pour votre participation à cette émission. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie, Monsieur Amrouni, pour votre, également votre expertise, votre analyse. Monsieur Rami, de même, merci pour la participation d'aujourd'hui à notre débat. Moi, chers téléspectateurs, je vais vous dire au revoir. C'est ici que se finit notre débat, qui donc avait pour lien, encore une fois, le discours du président de la République islamique d'Iran concernant le fait que le Coran est souvent employé comme symbole politique, alors que le Saint-Coran est sacré à une population extrêmement importante dans la population mondiale. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revoir ou voir nos débats sur nos réseaux sociaux ou encore notre site internet. Je vous dis au revoir, à bientôt ici, à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté de l'expansion des relations entre Téhéran et Moscou et des derniers développements dans la région, soulignant la nécessité d'empêcher toute ingérence étrangère dans les questions régionales. Répondant à l'appel téléphonique de Poutine mardi 26 septembre, Raisi a salué les progrès des relations bilatérales comme étant favorables et a appelé à accélérer la mise en œuvre d'accords et de projets communs dans les domaines du transit, des transports, des échanges énergétiques et de l'achèvement du corridor de transport international nord-sud. Le président russe a pour sa part déclaré à son homologue iranien que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays avait atteint un record l'année dernière. Qualifiant l'Iran de partenaire stratégique de la Russie, Poutine a exprimé l'espoir d'une mise en œuvre rapide du chemin de fer Rasht-Astara, qui fait partie du corridor de transport international nord-sud et qui relie les lignes ferroviaires de l'Iran, de la République d'Azerbaïdjan et de la Russie. Le dirigeant russe a souligné l'impact significatif que pourrait avoir le projet ferroviaire sur les échanges commerciaux entre les trois pays. Les deux présidents ont également échangé leur point de vue sur les développements régionaux, soulignant la nécessité de résoudre le conflit dans la région du Caucase du Sud autour du Haut-Karabakh par le dialogue et en évitant toute ingérence étrangère dans les questions liées à la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué certains gouvernements pour leur soutien indéfendable à la profanation des écritures saintes au nom de la liberté d'expression. Amir Abdollahian a abordé la question lors d'une réunion dimanche 24 septembre avec le secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, l'archevêque Paul Richard Gallagher, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans le contexte mondial actuel, le dialogue entre les dirigeants et les adeptes des religions abrahamiques est plus important que jamais, a-t-il dit. La décision de certains gouvernements d'autoriser la profanation des lieux sacrés et de livres divins au nom de la liberté d'expression est totalement indéfendable, a dit le ministre iranien. Il a également évoqué le discours du président iranien Ebrahim Raisi devant l'Assemblée générale des Nations unies, dans lequel il a brandi une copie du Coran pour dénoncer les récents autodafés du Coran en Suède et au Danemark. « Le feu du manque de respect ne viendra pas à bout de la vérité divine », a-t-il noté. Amir Abdollahian a remercié le pape François pour avoir condamné l'autodafé du Coran et a souligné que tous les pays européens devait prendre exemple sur lui. Lors de la 67e session ordinaire de la Conférence générale de l'AIOA à Vienne, lundi 25 septembre, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Mohammad Eslami, a affirmé que la République islamique d'Iran était en droit de réagir à l'arrogance d'Israël, avant de préciser que le silence de la communauté internationale avait enhardi le régime israélien. Il est clair que la République islamique considère qu'elle a le droit de répondre à l'impertinence du régime sioniste, a déclaré le chef de l'OIOA. Ces remarques interviennent quelques jours après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prétendu à l'Assemblée générale des Nations unies que la République islamique devrait faire face à une menace nucléaire crédible. Mohammad Eslami a déclaré que les menaces d'Israël contre les scientifiques nucléaires iraniens constituaient une violation du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de la Charte des Nations unies. La République islamique d'Iran, en tant qu'initiatrice du plan de création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, exprime sa préoccupation concernant le programme nucléaire et militaire et secret du régime sioniste, a-t-il fait savoir. Le régime sioniste n'a pas placé son programme nucléaire sous l'accord de garantie et par conséquent, il est considéré comme étant une menace à la paix et à la sécurité internationale. A-t-il dit, soulignant qu'Israël a mis en danger l'intégrité et la crédibilité du traité de non-prolifération, TNP, et de l'AIOA. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique développe un drone d'atterrissage capable de transporter des bombes et des missiles. Les experts de la marine du CGRI ont fabriqué des véhicules aériens sans pilote capables d'atterrir sur l'eau et de transporter des missiles et des bombes. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche 24 septembre le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Alireza Tangsiri. Il a déclaré que les drones de combat étaient également capables de décoller de l'eau. La marine du CGRI a également produit des drones hybrides dotés de deux moteurs distincts pour le lancement et la propulsion, a-t-il indiqué. Ces drones pourront effectuer des opérations de patrouille et de reconnaissance pendant 15 heures. Ils intégreront bientôt la flotte de la marine du CGRI, a précisé le commandant de la marine de ce corps. Le gouvernement arménien a annoncé dimanche soir, 24 septembre, qu'un total de 1050 personnes avaient traversé la frontière depuis le Haut-Karabakh, une enclave de l'Azerbaïdjan, peuplée principalement d'Arméniens de souche. Une opération militaire rapide menée par l'Azerbaïdjan cette semaine pour établir un contrôle total sur le territoire contesté du Haut-Karabakh pourrait déclencher un exode massif des Arméniens de souche vivant dans la région, a rapporté Reuters, citant les dirigeants de la région séparatiste. Pas moins de 120 000 Arméniens du Karabakh pourraient fuir leur foyer car ils ne veulent pas rester sous le régime de Bakou et craignent le nettoyage ethnique, a indiqué l'agence de presse. Notre peuple ne veut pas vivre au sein de l'Azerbaïdjan. 99,9% préfèrent quitter nos terres historiques, a déclaré à Reuters David Babayan, conseiller du président de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, également connu sous le nom d'Artsakh. Babayan a également fustigé le manque de réaction internationale face aux actions de Bakou, affirmant que les événements de cette semaine resteraient dans l'histoire comme une honte pour le peuple arménien et pour l'ensemble du monde civilisé. L'Azerbaïdjan a déclaré à plusieurs reprises qu'il garantirait les droits des Arméniens de souche dans le cadre de l'intégration de la région, qui échappait au contrôle de Bakou depuis des décennies. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré que son pays était prêt à accueillir tous ceux qui fuient la région contestée. Après l'arrestation judiciaire de l'ancien premier ministre du Pakistan, le tribunal a prolongé son mandat d'arrêt de 14 jours supplémentaires. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, a été arrêté le mois dernier après qu'une plainte a été déposée contre lui pour la présumée violation de la loi sur les secrets officiels suite à la divulgation d'un câble diplomatique secret envoyé par l'ambassade du pays à Washington en mars de l'année dernière. C'est la troisième fois que Khan, 70 ans, est temporairement envoyé en prison. La détention précédente de 14 jours s'est terminée mardi. Le juge du tribunal spécial, Abul Asnat Zulgarnain, a tenu des audiences à la prison du district d'Atek, où Khan est détenu depuis le 5 août après son arrestation dans l'affaire Tejakhan. Le tribunal a ordonné le placement d'Imran Khan en garde à vue jusqu'au 19 octobre pour finaliser l'enquête. Il a également prolongé pour la même période le mandat d'arrêt de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Shah Mahmoud Qureshi, confronté à la même accusation.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.